Merci d'écouter RFI. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Il est 13h en temps universel, 9h à Port-au-Prince. Nous allons parler de l'actualité d'Haïti et du continent américain durant la prochaine demi-heure, notamment de l'Équateur où les mesures proposées par le président Noboa concernant la sécurité ont été largement approuvées hier lors du référendum. Nous en parlerons dans quelques minutes avec notre invité. Reportage également à la frontière entre Haïti et la République dominicaine. Nous verrons que la situation est plus nuancée que ce que l'on entend dans les discours officiels. Et puis comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer. Benoît Ferrand, vous nous parlerez de ces coupures d'eau de plus en plus fréquentes en Martinique.
Une pénurie qui touche surtout le centre de l'île des Antilles, pénurie due au manque de pluie évidemment, mais aussi à des installations parfois obsolètes.
Benoît Ferrand, on vous retrouve dans une vingtaine de minutes, mais avant tout cela, on va faire le point sur l'actualité internationale. Avec vous Gilles Moreau, bonjour.
Bonjour à tous.
Les choses sérieuses commencent pour Donald Trump qui vient d'arriver au tribunal.
Oui, l'ex-président américain comparé à New York devant la justice pénale. Une première, faut-il le rappeler, pour un ancien locataire de la Maison Blanche. Son procès est lié à la relation qu'il aurait eue avec une ancienne star du X, Stormy Daniels. La sélection des jurés est maintenant terminée. Place maintenant au débat sur le fond en présence de Donald Trump qui, vous l'avez dit Anne, vient d'arriver au tribunal. RFI New York, Lubna Anaki.
La défense de Donald Trump aura tout tenté pour ralentir au maximum ce procès, mais pour le moment, tout se passe comme l'avait prévu le juge chargé de cette affaire. Comme prévu, la sélection des jurés est terminée. 7 hommes et 5 femmes, tous résidents de Manhattan, ont prêté serment et s'apprêtent à décider du sort de l'ancien président. Leur identité restera anonyme, a promis le juge, pour des raisons de sécurité et vu la nature historique de ce procès. Le juge a d'ailleurs mis en garde Donald Trump contre toute attaque visant les jurés, ce qui n'a pas empêcher le républicain la semaine dernière de laisser entendre que, je cite, « des activistes progressistes auraient infiltré le jury ». Ce lundi, les débats vont donc s'ouvrir pour entrer dans le vif de cette affaire où Donald Trump est accusé d'avoir dissimulé des paiements destinés à acheter le silence de Stormy Daniels, une ancienne star du X, juste avant d'être élu en 2016. Les audiences risquent d'être tendues avec des témoignages très attendus, notamment celui de Michael Cohen, l'ancien avocat personnel de Donald Trump. Lubna Anaki, New York, RFI.
Après l'ancien président américain, des nouvelles d'un ex-chef de l'État brésilien, lui aussi aux prises avec la justice.
L'ancien chef de l'État brésilien, Jair Bolsonaro, avait appelé ses partisans à manifester hier à Rio de Janeiro. Ils étaient près de 30 000 rassemblés pour soutenir l'ancien président condamné à 8 ans d'inéligibilité. En vedette, lui aussi, à ce rassemblement, le milliardaire Elon Musk. Reportage de notre correspondante à Rio, Sarah Cozzolino.
Vous voyez ici un peuple qui aime la liberté et ne baissera pas les bras devant la dictature. Sur un char, face à la plage de Copacabana, les discours de soutien à l'ancien président se succèdent sous fond de musique dramatique. Comme Jair Bolsonaro, Sergio et sa femme Claudia se sentent censurés sous le gouvernement Lula.
Ce n'est pas possible de ne pas pouvoir s'exprimer. On a peur de dire les choses qu'on pense. C'est absurde. Ma femme et moi avons vécu la dictature et rien de tout ça n'existait.
Tout le monde a peur. Le Brésil vit dans la peur. Et c'est la raison pour laquelle cette manifestation est très importante.
Visée par plusieurs enquêtes, notamment pour tentative de coup d'État, Jair Bolsonaro a appelé ses partisans à une manifestation sans banderole ni pancarte. Il a demandé à la foule d'applaudir Elon Musk. Le patron du réseau social X est accusé par la justice brésilienne d'encourager la dissémination de fausses informations. Mais c'est tout le contraire, selon Bernardo, jeune avocat.
Twitter est un réseau qui défend la liberté d'expression. Et malheureusement, ici au Brésil, les personnes de droite qui s'exposent sont persécutées par la justice brésilienne.
Jair Bolsonaro se dit lui-même persécuté, mais confiant. La relève est selon lui assurée. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Le président équatorien Daniel Noboa a qualifié de triomphe les résultats du référendum d'hier sur les questions de sécurité dans son pays. 72% des électeurs ont participé au scrutin selon le Conseil national électoral et une majorité d'équatoriens, 65%, s'est prononcée pour l'extradition des ressortissants liés aux crimes organisés. Une mesure particulièrement redoutée par les narcotrafiquants car elle vise notamment à rendre possible les extraditions vers les États-Unis.
Israël commence à fêter la Pâque juive dans un climat alourdi par le sort des otages du Hamas.
Oui, une question qui a conduit à la démission. Le chef des renseignements militaires israéliens, la première démission à ce niveau depuis les attaques du 7 octobre. Le général Aaron Aliva reconnaît sa responsabilité dans les défaillances qui ont permis l'attaque massive lancée ce jour-là par le Hamas. Elle a coûté la vie à quelques 1200 Israéliens et provoqué une vaste prise d'otages qui n'est pas finie puisqu'une centaine de personnes sont toujours retenues dans la bande de Gaza. Le conflit, ou plutôt les conflits du Proche-Orient, sont en arrière-plan de la visite en Irak du président turc, visite d'État, la première à ce niveau depuis plus de 12 ans. Recep Tayyip Erdogan est arrivé ce matin à Bagdad, accueilli par le Premier ministre irakien. Au menu des entretiens, la signature d'une série d'accords et des discussions sur la sécurité régionale, mais aussi le pétrole et le partage des eaux. Le président turc se rendra aussi à Erbil, capitale du Kurdistan autonome dans le nord de l'Irak.
En Ukraine, le chef du renseignement militaire s'attend à une période difficile.
Oui, alors que les craintes d'une nouvelle offensive russe se renforcent, la situation sur le front va, selon cet officier, empirer vers la mi-mai et début juin. L'Ukraine attend avec impatience la nouvelle tranche d'aide militaire promise par les Occidentaux. Il en est question actuellement à Luxembourg, où sont réunis les ministres des Affaires étrangères des 27. Aux États-Unis, une enveloppe de plus de 60 milliards de dollars en faveur de l'Ukraine a été votée ce week-end par la Chambre des représentants, attendu maintenant le vote du Sénat prévu demain mardi. Pour une partie de la presse américaine, il a eu le courage d'aller contre une frange dure de son camp pour faire voter ce plan d'aide. Mike Johnson, le président républicain de la Chambre des représentants, a même été qualifié par un éditorialiste de CNN de Winston Churchill. Il aura en tout cas évolué sur la question de l'Ukraine. On écoute à ce propos Julien Toureil, docteur en sciences politiques.
C'est vrai que lorsqu'il était un simple représentant, il faisait partie de ce groupe assez dur sur l'aide à l'Ukraine. Il ne voulait pas en entendre parler. Il avait promis au début de son speakership aussi de s'opposer à toute mesure. Mais manifestement, ce qu'on comprend, c'est que les informations qu'il a eues au cours des derniers mois, en particulier du directeur de la CIA, William Burns, et plus largement de la communauté du renseignement, lui ont fait réaliser la gravité de la situation en Ukraine et l'importance pour les États-Unis de venir en aide à Kiev. Ça, c'est le premier élément, peut-être. Et le deuxième élément, c'est à la faveur potentiellement de négociations avec les démocrates, que ce soit au Congrès ou à la Maison-Blanche. Mais Mike Johnson a aussi pris la mesure du rôle qui est celui de speaker, mais d'amener finalement devant la Chambre des projets de loi et pas simplement faire de l'obstructionnisme.
Julien Toureil, interrogé par Abla Junaidi. Enfin, la police de Londres annonce l'inculpation de deux hommes âgés de 29 et 32 ans soupçonnés d'espionnage. Ils auraient espionné au profit de la Chine entre fin 2021 et février 2023. La Chine aurait aussi des agents en Allemagne. Trois ressortissants allemands soupçonnés de collusion avec les services de renseignement chinois ont été arrêtés ce matin. Selon le parquet allemand Anne, ils auraient transmis des technologies pouvant servir à des applications militaires.
Merci Gilles Moreau. Tout de suite, notre demi-heure consacrée à l'actualité du continent américain. On prend la direction de l'Équateur.
RFI, la radio del mundo.
C'est une victoire pour le président en Équateur. Sa réforme de la sécurité a été largement approuvée hier. 65% de oui et une participation importante. Seules les questions portant sur l'économie ont été rejetées, mais pour la sécurité, le crime organisé, eh bien la population soutient la politique de Daniel Noboa. Paris réussit donc, Éric Sanson.
Les citoyens équatoriens ont envoyé un message sans équivoque. S'ils n'ont pas suivi le gouvernement dans son désir de flexibiliser le marché du travail ou de permettre les arbitrages internationaux dans le domaine économique, leur soutien en mesures anti-délinquance a été massif, entre 60 et 80%, notamment pour permettre aux militaires de soutenir la police dans sa lutte contre les gangs. Bernardo Quispe s'en félicite.
Les pays latino-américains ont été presque vaincus par le narcotrafic. C'est pour cela que les militaires doivent sortir dans les rues.
Les électeurs ont également approuvé l'aggravation des peines pour les délits graves, la récupération plus rapide des biens des trafiquants par l'État, la fin des réductions de peines pour les délinquants, sans oublier l'extradition des trafiquants. Soraya Jerez n'avait pas lu toutes les 11 questions du référendum, mais savait qu'elle approuverait au moins celle-là.
C'est une journée qui compte, car des choses devaient changer dans le pays. Autoriser l'extradition de délinquants équatoriens est important.
Marquée par une participation de 72%, la journée a été tranquille, malgré l'assassinat à Ripijapa du directeur d'une prison de la ville de Porto Viejo, récemment nommée. Une façon pour les gangs de rappeler que, référendum ou pas, ils n'ont pas abdiqué. Éric Sanson, Quito, RFI.
Les groupes criminels qui avaient aussi tué plusieurs élus locaux, trois maires en quelques jours à l'approche du référendum la semaine dernière. Nous allons parler de tout cela avec notre invitée, Emmanuelle Sinardet, professeure de civilisation latino-américaine et directrice du Centre d'études équatoriennes de l'Université Paris-Nanterre. Bonjour.
Bonjour, merci de votre invitation.
Mais merci d'être avec nous. Daniel Noboa parle à l'instant d'un triomphe. Est-ce que c'est le cas selon vous ?
Oui, il a en effet pris un risque assez important le pari a payé. Il a pris un risque parce qu'il était parti avec il y a quelques semaines encore, une popularité qui dépassait les 80% et qui allait en diminuant, même si aujourd'hui il est autour des 60% d'opinion favorable. On voyait qu'il est une baisse avait été amorcée. Et justement, ce oui consolide ses positions, en tout cas la légitimité à mener une politique de la main dure, de la mano dura, qui n'avait pas été dans son programme quand il était encore candidat il y a quelques mois. Et puis surtout, c'est un pari politique, une sorte de tremplin pour les mois à venir, parce qu'il peut se présenter à sa propre réélection. Il ne faut pas oublier les conditions d'organisation de cette consultation et ce référendum. Il y a cet horizon qui est désormais très proche des élections présidentielles du 9 février 2025.
Absolument. Quand Daniel Noboa a pris le pouvoir, il terminait le mandat de son prédécesseur. C'était 18 mois de pouvoir. On sait que lui veut se représenter. Est-ce que, selon vous, cette réforme de la sécurité était nécessaire pour l'Équateur ou bien est-ce qu'il s'agit d'un geste politique de la part de Daniel Noboa en vue de ce que vous nous expliquiez à l'instant ?
Nécessaire, je ne sais pas, on voit les limites de la militarisation. Vous évoquiez dans le reportage l'assassinat de trois maires en quelques jours. Quand les votations commençaient hier, on trouvait encore dans une des rues du sud de Guayaquil un corps décapité qui avait été jeté. Donc la violence est toujours là, malgré les mesures spectaculaires de militarisation, d'occupation des forces armées dans les rues qui ont été prises. Toujours est-il qu'en tout cas, en termes politiques, c'est extrêmement payant, puisque la population adhère à ce discours qui vise à restaurer l'autorité de l'État, une autorité qui aurait été mise à mal, affaiblie, voire effacée dans certains espaces, sur la côte, mais aussi dans les Andes et en Amazonie, qui sont les trois grandes régions.
De fait, la situation s'est beaucoup dégradée en Équateur. Le taux d'homicide a été multiplié par 7 en 5 ans, le pays est devenu la principale plateforme d'exportation de cocaïne. La réforme qui a été votée hier comprend notamment une mesure qui est présentée comme inquiétant particulièrement les narcotrafiquants, c'est la possibilité d'extrader les criminels vers les États-Unis. Est-ce que selon vous, c'est quelque chose qui peut changer la donne ?
Est-ce que ça changera la donne ? Cette seule mesure, non. Il faudrait en fait des mesures concertées au niveau régional, continental aussi. En tout cas, c'est quelque chose qu'en effet, les narcotrafiquants craignent par-dessus tout. Mais ça peut avoir un autre effet, qui est de déplacer ces violences et ces trafics vers d'autres espaces, voire d'autres pays. N'oublions pas que c'est le moment où on a vu apparaître cette violence en Équateur, qui était jusque-là un pays relativement calme, surtout dans la région. Ça a été en 2017, c'est-à-dire après la signature des accords de paix en Colombie, qui visait justement à démilitariser les groupes armés et les différents guérillas qui vivaient notamment de l'exportation de la cocaïne. Donc, la solution n'est peut-être pas nationale, elle est peut-être davantage régionale. En tout cas, pour Noboa, c'est véritablement un pari réussi, compte tenu de l'extrême fragmentation des partis politiques en Équateur, où on voit parfois au premier tour se présenter une foule de candidats. Là, on peut supposer que cette victoire massive et incontestable du oui consolidera les soutiens des autres formations à la candidature Noboa, c'est-à-dire que ces autres formations éviteront de choisir un candidat. Elles s'uniront certainement derrière la figure de Noboa.
Alors avant le référendum, plusieurs observateurs le présentaient pourtant dans une situation délicate. D'abord, il y avait sa cote de popularité que vous évoquiez tout à l'heure. Et puis, on le disait, dans une situation compliquée après la descente de police qui a été menée au sein même de l'ambassade du Mexique pour arrêter l'ancien vice-président Jorge Glass. Cela a valu au président des critiques très importantes de la part des pays voisins, mais on a l'impression que ça n'a pas eu vraiment de conséquences au niveau national. Vous nous le confirmez ?
Alors, une partie de la population s'est quand même émue de ce qui est, sans aucun doute, une violation de la Convention de Genève. Néanmoins, dans la justification que Noboa a apportée de cette action spectaculaire, eh bien, c'était au nom de la souveraineté. Il a avancé cet argument selon lequel un homme, Glass, condamné déjà pour corruption dans le cas Odebrecht et encore une fois visé par une procédure dans le cas de détournement de fonds, ne pouvait pas être accueilli au nom de la protection qui lui serait due, que l'Équateur est un État souverain et qu'il a donc le droit d'empêcher la fuite d'un délinquant. Eh bien, ce discours, même s'il contrevient à des règles internationales admises par tous, et cette intrusion a été condamnée unanimement à l'international, eh bien, ce type de discours, vous voyez, a porté, en tout cas, les Équatoriens dans leur majorité ont été sensibles à l'idée que la souveraineté de la nation est ici menacée. C'est ce même argument que mobilise constamment dans ses discours Daniel Noboa pour justifier la militarisation et pour l'organisation de ce référendum d'hier.
Alors, vous nous parliez tout à l'heure des enjeux politiques. J'aimerais qu'on parle d'une autre difficulté que traverse l'Équateur en ce moment, à laquelle il est confronté, du moins, c'est le rationnement de l'électricité à cause de la sécheresse. Mais les autorités parlent aussi de sabotage de la part de hauts fonctionnaires opposants à Noboa. Qui est visé par ces accusations ?
Ce sont des membres de l'opposition politique de Noboa. Donc, et là, on voit quand même une certaine habileté de Daniel Noboa à utiliser, en tout cas mobiliser certaines difficultés qui pourraient justement justifier la baisse de sa popularité pour, au contraire, justifier, asseoir sa propre autorité et ses décisions. Il n'y a aucune preuve qu'il y ait eu tentative de sabotage, peut-être de l'impréparation de certains dirigeants, peut-être en tout cas aussi de la négligence, un manque d'anticipation. Il est vrai que la demande en électricité est allée croissante sans que les infrastructures aient obtenu les investissements permettant de satisfaire cette demande en augmentation. De là à parler de sabotage, c'est peu probable. En tout cas, le président Noboa a parlé de sabotage pour justifier un nouveau décret qui est cette fois la déclaration, la mobilisation des militaires pour
et donc avec
les centrales hydroélectriques.
Avec des motivations aussi politiques. Je vous remercie beaucoup Emmanuel Sinardet d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur de civilisation latino-américaine, directrice du Centre d'études équatoriennes de l'Université Paris-Nanterre.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Direction Haïti à présent, alors que la capitale a de nouveau été secouée par des violences ces derniers jours, notamment à Carrefour et Delma, alors que les gangs maintiennent la pression sur le Champ de Mars, où le nouveau conseil de transition est censé s'installer au Palais National. Eh bien, du côté de la frontière avec la République dominicaine, la situation est toujours bloquée, du moins officiellement, parce que la réalité est beaucoup plus nuancée. La République dominicaine expulse toujours des Haïtiens. Chaque jour quasiment. Mais au fil des mois, le commerce, lui, a repris à Ouanaminthe, à la frontière nord. C'est ce qu'ont constaté nos envoyés spéciaux Vincent Souriau et Boris Vichit.
On pouvait s'attendre à une zone archi-militarisée, mirador, grillage, contrôle renforcé. En fait, pas du tout. Il y a tellement de monde qu'en passant dessus, on a failli la manquer, cette frontière. Des camions, des carrioles, des taxis-motos remplis à ras-bord, les pyramides de sacs de riz attachés sur le toit, les palettes de bouteilles d'eau en équilibre, les sachets de fruits séchés scotchés au vélo, dans un va-et-vient permanent. Et le cœur du cyclone, le centre de cette agitation, c'est ce marché, situé, oui, en territoire dominicain, mais où tous les Haïtiens peuvent entrer.
Beaucoup d'habitants viennent d'acheter.
Il y a beaucoup d'habitants qui viennent acheter ici, beaucoup. Le matin, tout le monde se pousse, il y a des bousculades. Si vous souffrez du cœur, ce n'est pas possible.
Les personnes qui souffrent du cœur, ils ne sont pas possibles.
Il y a des gens indisposés, des chutes, des malaises, il y a même des morts. Le pire, c'est le lundi et le vendredi.
Surtout pour le lundi, vendredi.
Il s'appelle Maxo. À l'origine, il vient de Port-au-Prince, mais... Situation pays, comme on dit, il a dû quitter la capitale et depuis, Maxo, il vend un peu de tout sur ce marché. Sur sa droite, des paquets de spaghettis, des macaronis, de l'huile. Sur sa gauche, des jus de fruits, du papier, de la lessive. Tout ça, il l'achète en République dominicaine. Et qui sont ses clients? Les petits marchands de Cap-Haïtien et de la région qui viennent s'approvisionner chez lui.
Tous ceux qui viennent sur cette frontière, dans leur boutique, il n'y a aucun produit haïtien. Les gens achètent en gros ici, en République dominicaine. Ils prennent une brouette, ils labourent de plein de trucs. Et après, ils retournent en Haïti, mettre ça en boutique. Et les Haïtiens viennent acheter au détail.
Ce qu'on comprend, c'est que d'un côté, il y a les discours officiels très sévères. Et puis de l'autre, il y a l'économie. Les Haïtiens ont besoin des produits dominicains. Et les producteurs dominicains ont besoin d'écouler leur stock en Haïti. Donc... on s'arrange, même si ça ne lui rapporte presque rien à Maxo.
Piti. Par exemple, on achetait...
Par exemple, ce paquet de lessive, si on l'achète 600 pesos en République dominicaine, on ne fait que 25 pesos dessus comme bénéfice. Le papier, là, on l'achète 400 pesos et on gagne 15 pesos à peine à la revente. À chaque fois, c'est des tout petits profits. Et au bout du compte, c'est vraiment pas grand-chose, mais on est obligé.
Mais c'est pas vraiment grand-chose.
Il aimerait bien aller plus loin en République dominicaine, trouver un emploi stable, mais ça, c'est la ligne rouge. Deux fois par jour, les gardes frontières dominicains expulsent vers Haïti des dizaines de personnes qui n'avaient pas les bons papiers. Vincent Souriau, Boris Vichit ou Alain Minter.
RFI, The World's Voices.
On va maintenant lire la presse du continent. Bonjour Abla Jounaidi.
Bonjour.
À la veille de la Pâque juive qui commence ce soir, le président américain a dénoncé hier l'antisémitisme sur les campus américains. Il faut dire que ce week-end, des étudiants juifs de l'université de Columbia ont été visés par des attaques antisémites en marge de manifestations dénonçant la guerre menée par Israël à Gaza.
Oui, certains des 5000 étudiants juifs de l'université new-yorkaise sont désormais inquiets pour leur sécurité, titre le New York Times. La montée des tensions ce week-end a conduit un rabbin à suggérer que la fac n'était plus sûre. D'autres étudiants juifs qui soutiennent les manifestations pro-palestiniennes disent eux ressentir de la solidarité et non du danger, rapporte encore le New York Times. Sur un autre campus américain, celui de Berkeley en Californie, les manifestations ont changé de nature à partir de février, lorsque des manifestants ont fait irruption lors d'un événement privé en présence d'un vétéran israélien. Vitres et portes brisées, des étudiants juifs frappés. Un tournant pour le campus, habituellement un lieu de débat pacifique. Maintenant, les étudiants affrontent les étudiants, résume le directeur de l'université dans Politico. La semaine dernière, alors qu'elle était auditionnée devant le Congrès, la présidente de Columbia a promis de vigoureusement lutter contre l'antisémitisme tout en préservant la liberté d'expression sur le campus. Un équilibre devenu toujours plus difficile à trouver, estime le New York Times.
Dehors Petro, en Colombie, voilà ce qu'on pouvait entendre hier. De nouvelles manifestations ont eu lieu ce dimanche. Des défilés contre des réformes phares du chef de l'État, notamment celle du système de santé à Blas, mais pas seulement.
Oui, plusieurs organisations du secteur appelées à défiler pour être davantage associées à l'élaboration de cette réforme rejetée par le Congrès au début du mois. Ils voulaient aussi exprimer leur inquiétude sur la crise des hôpitaux, résume Semana. Gustavo Petro cherche à mieux contrôler l'usage qui est fait de l'argent public par les acteurs privés, explique El Espectador. La réforme des retraites et celle envisagée de la Constitution font gronder la rue également, Anne.
Le mouvement a entraîné au moins 500 000 personnes dans les les rues colombiennes. Et pour la presse, c'est un tournant, Abla.
Oui, c'était une marche de mécontentement, plus qu'une marche de l'opposition. Elle a aussi été convoquée par des dirigeants de droite, pro-Uribe. Mais pour la première fois sous ce gouvernement, une classe moyenne moins politisée a défilé, explique le magazine en ligne indépendant Silla Bafilla. Les dehors Petro n'ont pas échappé aux premiers concernés, mais le président de gauche a minimisé l'ampleur des manifestations et parlé de coup d'État mou organisé par la droite. Si le président Petro ne veut pas menacer la stabilité institutionnelle du pays, il doit appeler à un dialogue national, estime un politologue dans Caracol. Ce n'est pas son intention. Petro préfère appeler à des contre-marches le 1er mai prochain, journée internationale des travailleurs, souligne le journal colombien El País.
La revue de presse signée Abla Jounaïdi.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de La Première, on vous retrouve. Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour Anne.
Depuis une dizaine de jours, les coupures d'eau seraient de plus en plus fréquentes en Martinique.
Une pénurie qui toucherait surtout le centre de l'île des Antilles, les communes de Fort-de-France ou Chelcher. Alors une pénurie due au manque de pluie évidemment, mais aussi à des installations parfois obsolètes. Alors que faire? C'est la question posée par Pedro Monerville au directeur de l'eau de la communauté d'agglo Espace Sud, André Ferréol.
On peut pallier ce problème en travaillant sur les usines, en les rendant plus performantes, ce qui est le cas en ce moment, et en installant des réservoirs de plus grosse capacité aux sorties des usines pour pouvoir stocker le temps que l'eau soit mi-turbide. Parce qu'on a des rivières avec un régime torrentiel, donc ça monte très vite en débit et en turbidité, mais ça redescend très rapidement aussi. À titre d'illustration, quand dîner est passé sur la Martinique, les usines sont arrêtées automatiquement à 2h du matin, elles ont redémarré automatiquement à 14h. Donc, il nous faut pouvoir stocker, on va dire, 12h à 16h de production dans des réservoirs en tête de station pour distribuer, c'est ce qui est en train d'être fait. La deuxième cause de raréfaction et de coupure d'eau, c'est quand vous avez moins de ressources. Donc, c'est le carême. Effectivement, carême très dur. On a une baisse des ressources dans les rivières. Et du fait des rendements de réseau, vous avez une très grosse déperdition qui fait que l'eau qui arrive finalement au robinet, la disponibilité est moindre. Et à ce moment-là, il faut partager ce qui reste entre les différents abonnés.
Direction la Guadeloupe avec le bilan de la saison des croisières 2023-2024. Bilan globalement satisfaisant avec une hausse de 10% du nombre d'escales et des perspectives d'avenir, paraît-il, plutôt souriantes. Jordi Rayapin.
Après un bilan positif sur nos îles, les compagnies Costa et MSC renouvellent respectivement avec 3 navires sur les 3 prochaines années chez Costa. Chez MSC Croisières, on prévoit de faire accoster le Virtuosa, navire dit le plus respectueux de l'environnement, et ce, dès la saison prochaine. La compagnie Viking prévoit aussi un retour dans l'archipel après 10 ans sans escale sur nos îles. Son retour serait prévu pour la saison 2026-2027. La compagnie Carnival Cruise Lines pourrait elle aussi faire son retour sur nos ports et mouillages avec une clientèle nord-américaine. Enfin, un nouveau navire Four Seasons Yacht devrait lui aussi arriver. En construction par la chaîne hôtelière très luxueuse, cette croisière débuterait en décembre 2025 au départ de Terre de Haut. Des partenariats renforcés, renouvelés ou tout nouveaux pour certaines compagnies qui laissent prévoir une saison 2024-2025 fructueuse. Elle compte à ce jour 265 escales réparties sur les 5 ports et mouillages des îles de Guadeloupe, soit 24 de plus que la saison dernière.
Et puisque nous sommes en Guadeloupe, sachez que c'est ce soir que commence le couvre-feu dans les rues de Pointe-à-Pitre et dans 2 quartiers de la commune des Abîmes. Couvre-feu pour les mineurs, non accompagnés par un adulte, de 20h à 5h du matin. Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. Merci à tous d'être avec nous. De la musique, avant de se quitter, celle du Norvégien Erlend Noyer et la Comitiva. On écoute le morceau For the Time Being. Ils seront tous les deux en concert ce soir au Cabaret Sauvage à Paris. collégiens Erlend Oyer et la comitiva. Merci à tous d'avoir choisi RFI. RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui. À la réalisation ce lundi, Vincent Biteau. Vous restez avec nous dans quelques secondes de vive voix. Et nous, on se retrouve demain à partir de 11h, temps universel. Très bonne journée.